Bah, j'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Eh, monte le son.
Il y a certaines dates qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles marquent dans notre histoire collective un moment fort où tout un chacun prend conscience d'une réalité, ou peut-être plutôt un moment où cette réalité est enfin dite à haute voix. Il y a des dates qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles nous rappellent ce temps où l'on s'est mobilisé collectivement pour ceux qui en ont besoin, où des mains ont été tendues, où des vies ont changé, où des vies ont été sauvées. Et c'est d'une date précisément dont on va parler dans cette émission avec mes invités d'aujourd'hui, celle du 1er février 1954, le jour du célèbre appel de l'abbé Pierre, il y a maintenant 70 ans. Nous serons en compagnie de Cathy Chêne, amie d'Emmaüs à Villiers-Charlemagne, qui n'est pas venue seule, puisqu'avec elle, Christophe, Joseph, Safietou et Jeanne, compagnons d'Emmaüs, nous parlerons ensemble de cet appel de l'hiver 54, mais aussi de la création d'Emmaüs. Et ils nous le diront avec leurs mots, comment cet appel fait encore écho en eux, particulièrement aujourd'hui. Bienvenue à vous, amis auditeuristes, dans cette dernière agitée du local avant le week-end. Nous sommes vendredi, c'est le grand entretien de la semaine. Et avant de terminer l'émission, comme à notre habitude, ça sera bien évidemment l'agenda culturel de la semaine. Mais avant toute chose, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les gros titres de votre hebdomadaire Le Haut-Anjou paru aujourd'hui. On commence avec une vingtaine de classes qui pourraient fermer en Mayenne à la rentrée de septembre 2024, selon les syndicats d'enseignants qui ont découvert ce lundi 5 février le projet de carte scolaire des services de l'éducation nationale. C'est un peu moins que la première version présentée la semaine dernière. Les syndicats dénoncent de leur côté des suppressions massives de postes allant à l'encontre des besoins actuels. Adeline Bertin vit à Bissart dans les Hauts-Anjou et elle écrit la vie des gens dans des livres. Et oui, ça fait maintenant un an qu'elle a choisi de devenir biographe pour proposer aux entreprises et aux particuliers de raconter leur histoire, d'en faire le récit écrit. Ce nouveau chemin de vie qu'elle a pris est aussi dans le but de recueillir la parole de personnes en fin de vie qui souhaiteraient laisser une trace de leur histoire. Et pour terminer, on se rend à Candé pour les 230 ans du martyr Noël Pinault. La paroisse commande une toile monumentale. Elle sera réalisée par l'artiste Marie Fougeret qui racontera l'histoire de ce dernier. Alors aujourd'hui, je vous le disais, je suis en bonne compagnie pour ce grand entretien puisqu'à mes côtés se trouve Cathy Chêne. Vous êtes amie d'Emmaüs à Villiers-Charlemagne. Avec moi également Christophe, Joseph cet aîné, Safietou et Jeanne. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Le 1er février, on fêtait les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer par un extrait de ce célèbre appel.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière. Dans la nuit où l'on lise ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Cet appel a donc 70 ans, plus personne dans le froid et un toit pour tous. L'abbé Pierre en a fait sa vie. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en écoutant ces mots, Joseph ?
Alors... 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre, aujourd'hui on est en 2024, ça fait 70 ans précisément. Et là, nous constatons que rien n'a changé depuis. Tous les problèmes de migration, les problèmes de mal-logement, tous les maux sont encore là. Et si l'abbé Pierre avait été là, il allait encore beaucoup plus s'indigner. Il va se retourner dans sa tombe avec ce qui se passe avec les lois que les gens votent aujourd'hui. Moi, je pense que tout évolue autour de nous. Mais les situations, les mauvaises situations restent là. Ça n'évolue pas, ça ne devient pas de bonnes situations. Parce que les hommes qui nous dirigent, ils font ce qu'ils veulent, ce qui les arrange, et ils ne s'occupent pas des hommes.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'on aurait besoin de nouveau d'un tel appel aujourd'hui ? Vous venez d'évoquer la loi immigration, c'est quelque chose qui vous touche, Safietou ?
Exactement, oui. Parce que nous sommes immigrés et nous logeons à... Emmaüs, aujourd'hui, on avait de l'espoir, en fait, de voir les choses s'améliorer. Et au contraire, on voit que les choses vont en se dégradant. pas du tout à notre faveur et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, oui.
Effectivement, après 70 ans, la précarité est toujours très présente en France. Combattre pour les plus démunis, finalement, Cathy, vous estimez que c'est l'affaire de tous, que l'on a tous à agir contre ça ?
Oh, bah, évidemment que chacun a sa part dans cette situation, à titre individuel, au sein des associations, en sollicitant nos représentants politiques et en s'indignant, en manifestant comme on le fait régulièrement pour qu'il y ait plus de solidarité, car cette solidarité dans l'esprit de l'abbé Pierre, mais dans l'esprit de la France, dans son histoire, elle n'a pas de frontières. Et se tourner vers les plus démunis, c'est une nécessité, je pense, pour qu'une société soit équilibrée, saine. Si on ne le fait pas, comme on le voit aujourd'hui, si on divise les gens au lieu de les réunir, si on ne montre pas d'empathie pour les plus fragiles, on sait ce que ça donne dans l'histoire. Et que ce soit ici, en Europe, on se rend compte qu'il y a une tendance à opposer les gens aux autres et c'est vraiment pas de bon augure pour l'avenir.
C'est précisément le message de l'abbé Pierre et d'Emmaüs encore aujourd'hui, car cet appel a eu lieu en 54, mais le mouvement Emmaüs a commencé en 49.
Emmaüs a été créé en 1949 par l'abbé Pierre à Neuilly-Plaisance. Et l'appel de 54, c'est venu juste après. Mais je voulais dire que l'abbé Pierre s'est inspiré d'une citation de la Bible. Emmaüs, c'est un petit village en Palestine où des gens se rendaient comme ça après la mort de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ. Et ils ont été rejoints par Jésus lui-même. Mais n'ayant pas été reconnu par les siens, les disciples ont dit « Mais c'est toi qui n'es pas au courant de ce qui s'est passé il y a 2 jours. » Il dit « Ouais, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Ouais, mais on a tué le seul bon qui était parmi nous. Et nous allons à Emmaüs, là. On va se réunir là-bas. » Jésus, qui ne s'est pas encore prononcé, qui ne s'est pas encore annoncé, a dit « Je vais avec vous. » Je fais le chemin ensemble. Et ils arrivent à Emmaüs, dans le petit village. Et puis, il dit, bon, ben, je vais continuer mon chemin. Il dit, non, reste avec nous. On va partager le pain, il fait déjà nuit. Et donc, c'est comme ça que Jésus est resté avec eux. Et c'est en partageant le pain le soir avec ses disciples qu'ils se sont rendus compte que c'est Jésus, le ressuscité, qui est là. Et pour nous, compagnons, c'est l'espoir qui renaît là. Et c'est comme les disciples ont vu Jésus ce jour-là, qui partageait le pain avec eux, à Emmaüs. Et c'est comme ça que l'abbé Pierre a donné le nom d'Emmaüs à sa création, à l'association. Moi, je suis au comité des sages, à Emmaüs France. Et c'est pour ça que cette histoire, chaque fois que j'ai envie de l'annoncer, je l'annonce pour que les gens, les uns et les autres, comprennent que c'est comme ça. Les compagnons retrouvent l'espoir à Emmaüs.
Et donc, on peut peut-être revenir au moment de la création de ce mouvement Emmaüs. Comment ça s'est fait ?
Oui, l'abbé Pierre a créé ce mouvement justement pour recueillir tous les sans-domicile fixe qui sont là. Malheureusement, il n'avait pas assez de moyens. Il n'avait que son salaire de député qu'il utilisait. Mais quand son salaire de député est fini, puisqu'il n'était plus député, l'abbé Pierre est parti tendre la main sur la route et les compagnons qu'il a recueillis, les Georges, le premier compagnon, et les autres, ils ont entendu, ils ont vu que l'abbé Pierre était en train de mendier. Et quand ils sont revenus, ils se sont réunis pour dire, l'abbé, mais tu nous fais honte. Pourquoi tu dois mendier pour nous nourrir ? Mais en fait, l'abbé, il ne l'a pas fait comme ça parce qu'il a envie de faire, mais il a envie d'avoir des moyens pour pouvoir s'occuper de ceux qu'il a recueillis. Et donc, ils ont dit, nous, l'abbé, on a un autre plan. On va aller fouiller dans les déchetteries et on va trouver ce qu'il faut revendre aux gens et pouvoir nous nourrir. C'est comme ça qu'on les a appelés les chiffonniers d'Emmaüs. Voilà, aujourd'hui la création d'Emmaüs, c'est comme ça.
On remarque bien sûr que le réemploi est toujours central dans l'émission d'Emmaüs. Est-ce que le fonctionnement de la communauté Emmaüs est toujours le même qu'à ses débuts, Cathy ?
Oui, finalement. Parce que en fait, les compagnons d'Emmaüs, plus des 350 communautés Emmaüs en France, et même les communautés internationales vivent grâce au retraitement des déchets, au tri des déchets, au recyclage. Et ce qui est proposé en boutique, ça vient aussi des dons, hein, des dons en déchetterie, des dons personnels. Et donc, en fait, je pense que l'idée de départ d'Emmaüs se poursuit aujourd'hui parce qu'en fait, toutes les communautés vivent de ce recyclage, de ces dons. Et surtout, elles contribuent énormément à l'objectif écologique hein, qui est nécessaire aujourd'hui, en favorisant en fait les achats de seconde main dans leur boutique et en fournissant aux entreprises de recyclage des tonnes et des tonnes de matériaux qui sont ensuite transformés dans d'autres productions.
L'hébergement proposé, c'est aussi depuis le début d'ailleurs.
L'hébergement, c'est le cas depuis le début, depuis la création. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'abbé, il a accueilli Georges Gay, il a accueilli d'autres personnes qui l'hébergeaient. Et c'est ceux-là, par leur travail de chiffonnier, qui pouvaient se nourrir par la même occasion. Et c'est comme ça qu'il y a même un film sur l'abbé Pierre qui est sorti récemment, où vous pouvez voir sa secrétaire, une bénévole. Et c'est là qu'est sorti le nom de Trépied maintenant dans notre association. On travaille en trépied, c'est-à-dire on a bénévoles, salariés et compagnons. Les trois sont là pour la cause solidaire, pour défendre, pour travailler ensemble et pouvoir fournir le fruit de la solidarité aux autres. Parce que l'abbé Pierre dit « aidez-moi à aider ». Il a dit à Georges Gay « aide-moi à aider ». Mais comment Georges Gay l'aide? C'est en travaillant, en fouillant, en cherchant des objets rares qu'il revendait. Et c'est avec ce fruit-là qu'il nourrissait d'autres personnes. Et en fait, que les gens qui n'ont pas les moyens viennent à la communauté pour acheter. Nous avons des articles à 1 euro, 2 euros. On est tout le temps en solde, nous, à Emmaüs. Et donc, c'est ça. Aidez-moi, aidez. On aide par notre travail. On aide les pauvres gens qui sont démunis en ville. Et même là, maintenant, la solidarité s'est étendue. On aide encore des pays au Burkina Faso, au Népal. On aide beaucoup de gens.
Comme disait Cathy tout à l'heure, la solidarité n'a pas de frontières. D'ailleurs, Cathy, avant le début de cet entretien, vous me disiez qu'Emmaüs, en Mayenne, est arrivé au tout début. Ça a été parmi les premiers à s'implanter.
Oui, en fait, quand l'abbé Pierre a été élu député après la libération, parce qu'il était résistant, il s'est retrouvé sur les bancs de l'Assemblée aux côtés de Robert Buron, qui était maire de Villaines-la-Juhel et député de la Mayenne. Et il a essayé, enfin, il lui a demandé hein, de présenter un projet de loi avec Léo Hamon, hein, qui était également député, un projet de loi pour la création de cités d'urgence, parce que c'était nécessaire à ses yeux. Malheureusement, ce projet de loi n'a pas été adopté ou reporté, enfin, je ne sais pas, ça l'a indigné. Donc, il a commencé déjà à lancer des appels à la radio pour des billets de 100 francs, si je me souviens bien. Ensuite, un bébé est mort dans un bus, dans un terrain vague. Il a fait venir le ministre du logement aux funérailles, qu'il a appelé les funérailles de la honte pour la France. En fait, il a tellement été actif sur les médias de l'époque, et ça a conduit justement au 1er février 1954, suite à la mort d'une dame qui était morte dans la nuit, avec à la main l'arrêté d'expulsion. Parce que pendant que l'abbé Pierre se démenait, le ministère de l'Intérieur multipliait les expulsions à cette même période. Donc c'est ce qui a suscité cet appel, en fait, cet appel de révolte, d'indignation. Et ça a remporté un tel succès que, du coup, la loi est passée. La loi sur la création des cités d'urgence.
Quel est l'héritage de cet appel alors aujourd'hui?
Eh bien, c'est la construction de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, la loi Dalo également pour la protection des plus démunis face au logement. Il y a tout un héritage qui est né ce jour-là, le 1er février 1954, qu'il faut préserver. Et malheureusement, on a l'impression que cet héritage n'est plus aussi important aux yeux de l'exécutif actuel.
Dans quelques instants, j'aimerais revenir avec vous sur le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, mais je vous propose d'abord une petite pause musicale. On écoute Away, Away avec IBI. de retour dans l'agité du local, c'est le grand entretien. À mes côtés, Cathy Chen, bénévole au sein d'Emmaüs, Christophe, Joseph, Safietou et Jeanne également. Vous êtes compagne et compagnon au sein de la communauté Emmaüs. À l'occasion des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, nous sommes revenus sur la création d'Emmaüs, des valeurs que la communauté porte. J'aimerais poursuivre avec vous sur le rapport de la fondation l'abbé Pierre, sorti justement le 1er février. Qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport, Cathy ?
Oui, le 1er février dernier, Christian Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, a présenté le rapport annuel, le 29e rapport annuel au ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors ce rapport est plutôt sévère, on peut le dire, car il dénonce notamment la hausse des expulsions locatives, la remise en cause de la loi Dalo et aussi l'inaction de l'exécutif face à la précarité énergétique qui touche près des plus démunis, notamment plus de 3 500 000 personnes aujourd'hui.
Safietou, vous avez justement les chiffres, je crois, qui ont été révélés.
Oui, effectivement. Comme chiffre, nous avons 4,1 millions de personnes qui sont mal logées ou non. Et 12,1 millions de personnes sont fragilisées du fait de la crise du logement. Nous avons 12 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique et 2,3 millions de personnes sont en attente de logement social. Alors, 5,7 millions de personnes subissent un effort financier excessif et 330 000 personnes sont sans domicile actuellement, selon le rapport.
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes sur la situation actuelle.
Ce rapport donne des préconisations, notamment relancer le financement du logement social, revaloriser les APL, rehausser les minima sociaux, soutenir le travail social qui est essentiel pour accompagner les personnes fragilisées face au logement et généraliser l'encadrement des loyers. Et c'est vraiment une des préconisations exigeantes, mais nécessaires.
Ces préconisations, est-ce qu'elles sont entendues ?
En fait, quand on entend les projets du gouvernement pour remettre en cause la loi SRU, la loi Dalo, la loi anti-squat, les lois qui favorisent les expulsions de lieux collectifs, on peut s'inquiéter quand même. On peut s'inquiéter que le rapport de la Fondation Abbé Pierre reste lettre morte, comme les autres rapports précédents.
Merci Cathy, j'ai envie de me tourner vers vous Christophe maintenant, vous êtes donc compagnon, ça fait combien de temps aujourd'hui que vous avez rejoint la communauté ?
Oui, ça fait 4 ans du moins, donc je suis très satisfait du travail que je fais là-bas, donc je continue le mouvement, à suivre la vie de Pierre et tout, à aider les gens, notamment tous ceux qui sont dans la rue actuellement, donc moi mon travail est là-bas, c'est je fais des ramasses à domicile. Les gens téléphonent au standard pour demander des rendez-vous, pour récupérer des meubles, tout, de la vaisselle, tout ce qu'il y a actuellement, pouvoir remettre en vente, leur donner la valeur du produit. Et je fais aussi du triage, pour voir tout ce qui est bon au niveau du matériel, pour voir ce qui est bon en état pour revendre. Pas mettre de n'importe quoi non plus.
Et Christophe, vous vouliez nous parler des valeurs d'Emmaüs qui sont importantes pour vous, justement.
Ah bon, déjà, il y a les 4 piliers. Donc, là, il y a la solidarité, l'accueil inconditionnel, l'autonomie par l'activité et le développement durable.
Merci Christophe. C'est important de rappeler ces piliers qui sont aussi le fondement de la communauté. Jeanne, j'ai envie de vous demander, depuis combien de temps est-ce que vous êtes compagne d'Emmaüs de votre côté ?
Je suis dans la communauté depuis un an. Et je m'occupe des jouets. Je fais le tri et le recyclage des jouets et je les mets en magasin pour les vendre les mercredis et les samedis.
Et alors, quels sont les liens qui se tissent entre compagnons, Jeanne ?
C'est des liens de fraternité. On est ensemble, on fait les choses ensemble, on mange ensemble, le repas de midi et tout ça. Il y a aussi les sorties où on se retrouve pour se distraire un peu, se divertir un peu, voilà.
Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire peut-être sur ce que ça vous a apporté de rejoindre cette communauté Emmaüs ?
Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup, surtout je suis au niveau des jouets, je m'occupe des jouets. c'est comme un prolongement pour moi parce que j'étais éducatrice au préscolaire. Donc, c'est une suite de ce que je faisais. Donc, ça m'apporte beaucoup. Je suis en contact avec les parents qui viennent acheter les jouets. Souvent, je les conseille pour les jouets que l'enfant doit prendre et tout. Voilà.
Le lien et le contact avec les gens, c'est important pour vous?
Ça me fait du bien parce que j'échange beaucoup avec les parents qui viennent acheter les jouets avec leurs enfants. Et les grands-parents aussi, qui souvent accompagnent les enfants pour faire le choix de jouer. Voilà. Je les aide aussi souvent dans leur choix.
Oui. Et alors, vous travaillez avec Cathy?
Je travaille avec Cathy, qui est bénévole, mais qui m'aide vraiment beaucoup dans le travail que je fais. En tout cas, on s'entend très bien, Catherine et moi.
Cathy, on vient de le dire, vous êtes bénévole. Combien est-ce que l'on peut compter de bénévoles, justement, au sein de la communauté en Mayenne?
Alors, j'ai les chiffres pour Villiers, en fait. Moi, je sais qu'il y a 70 compagnes et compagnons. Et par contre, pour Emmaüs, 53, de la Mayenne et du Castelbriantais, il y a plus de 200 bénévoles, auxquels se sont ajoutés les 20 nouveaux bénévoles qui sont en train de préparer l'ouverture de la nouvelle boutique Emmaüs de Château-Gontier.
Justement, peut-être que l'on peut en dire quelques mots de l'ouverture d'Emmaüs à Château-Gontier.
Le 17 février ouvrira la nouvelle boutique Emmaüs aux routes d'Angers face à la boulangerie La Petite Zoé. Alors, il y a une vingtaine de nouvelles et de nouveaux bénévoles qui ont rejoint l'association pour proposer une sélection de vêtements, jouets et bibelots les mercredis après-midi, le jeudi matin et le samedi toute la journée. On attend aussi des bénévoles qui peuvent venir en renfort, voilà, donner un coup de main.
Et pour terminer cet entretien, justement, est-ce qu'il y a des grandes ventes ou d'autres événements que l'on peut noter dès maintenant dans nos agendas?
Déjà, le 17 février, on fait une vente spéciale matériel de musique. Tout ce qui est matériel de son, guitare, piano, violon, tout ce qui a, ce qui importe musique, les CD aussi, des partitions, vous pourrez trouver aussi là-bas. Et puis, bah,
voilà. Voilà, donc le 17 février à Villiers-Charlemagne.
Voilà, ça tombe à samedi, non. Samedi toute la journée. Donc les ouvertures, c'est de 10h jusqu'à midi et de 14h jusqu'à 17h30. Voilà. Et vous pouvez trouver aussi le calendrier des ventes à thème que vous pouvez trouver à Emmaüs ou autrement sur Internet, sur Facebook exactement.
Okay, donc ne pas hésiter à vous suivre sur les réseaux sociaux et puis à regarder de temps en temps votre site internet. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir accueillis.
Avec plaisir. Merci. C'est maintenant le moment de l'agenda culturel de la semaine et on le commence avec le théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Tenez-vous bien, le 17 février se produira Goldman sur la scène Joël Le Teul. Et alors Goldman, c'est quoi? C'est l'histoire de six gars qui aiment, adorent même la musique de Jean-Jacques Goldman. Réunis autour d'Alain Stévé, miroir vocal du chanteur iconique, le groupe vous transporte dans un concert 100% live et 100% tube où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin où Il suffira d'un signe. Avec ce concert tribute conçu comme un véritable hommage, les Goldman écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Maintenant, un récit à deux voix d'un amour et du temps qui passe, ça s'appelle Cœur des amants et ça se passera le 14 février sur la scène du théâtre de Laval. Et alors pour vous en dire quelques mots, ça se passe un soir, un couple part en urgence à l'hôpital car la jeune femme asthmatique ne parvient plus à respirer. Cette situation traumatique est l'occasion pour les deux amants de faire le récit de leur amour, de nous raconter simultanément des versions légèrement différentes d'une même histoire. La pièce est mise en scène par Thiago Rodriguez, figure majeure du théâtre contemporain. Une soirée qui promet délicatesse et émotion rare. Et puis si on demande au carré à Château-Gontier ce qu'il nous propose prochainement, eh bien c'est du théâtre, mais hors les murs. On écoute Maël Grenier, directeur du carré, nous en parler.
Alors le week-end des 10 et 11 février, nous serons sur le territoire du pays de Château-Gontier, à Gênes-sur-Glaise exactement, pour deux représentations de Jean-Pierre, lui, moi. Alors Jean-Pierre, lui, moi, c'est un spectacle intime qui traite du handicap. C'est une forme, on va dire, assez légère, où on accueille à peu près 100 personnes, guère plus, autour de Thierry Combes, qui est le comédien créateur de ce spectacle, qui tourne depuis des années. Et c'est un spectacle sur un récit autobiographique, un tout petit peu fictionnel, mais surtout autobiographique, sur son frère, qui est effectivement handicapé. Et il raconte avec une infinie sensibilité, une infinie tendresse, sa vie avec ce frère, son enfance avec ce frère, aussi envahissant que attendrissant, que rassurant, que énervant. Enfin, c'était assez extraordinaire de voir la parole relativement libre et, je dirais, même assez impudique qu'il nous livre, avec énormément de tendresse et d'amour. C'est un spectacle qui saisit par son humanité. Et je pense que les personnes qui vont avoir cette curiosité de nous rejoindre ressortiront ravies, réjouies, et donneront certainement envie à leurs proches de venir le lendemain. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a deux dates à suivre. Je précise là-dessus qu'on a laissé un quota de place pour les habitants de Gênes et les environs, parce que la volonté du Carré de venir sur le territoire, c'est évidemment de toucher les habitants sur leur commune. Et pour l'instant, le quota que nous avons, nous, en gestion, est complet depuis longtemps, et parce qu'il voilà, il répond aussi à une curiosité que les gens ont tout de suite sentie à l'annonce de ce spectacle. Et on invite vraiment les habitants des alentours de Gênes de nous rejoindre ces samedis 10 et dimanche 11 février pour Jean-Pierre Lhuimoy.
Pour terminer, je vous rappelle que le groupe Glauque se produit sur la scène du 6x4 ce soir. Nous avions avec nous hier Louis Lemage, chanteur du groupe. Si vous l'avez manqué, l'émission est disponible en podcast sur l'autreradio.fr. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Cathy, Christophe, Joseph, Safietou et Jeanne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour leurs paroles, pour leurs témoignages. L'agité s'arrête, mais ça continue sur l'autre radio et votre soirée à 19h sera avec Dance Hall Social Club dans les oreilles. Et oui, on commence le week-end avec un peu de nostalgie en se replongeant dans des sucreries musicales du passé. Et j'aime quand même bien vous parler du week-end aussi avant de vous quitter. Samedi, ça sera rock, enfin musical, sur les ondes de l'autre radio. À partir de 13h, Rock Dreams prend l'antenne. À 18h, ça sera rock à la Casbah. Et bien sûr, ne manquez pas l'émission spéciale Les Inouïs du printemps de Bourges qui commencera à 19h. Elle a été enregistrée hier soir à la salle Les Saulnières au Mans, nous y étions. Et pour vous donner une idée, vous pourrez découvrir les lives des 6 groupes participants et leur interview en sortie de scène menée par les différentes radios de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire présentes. Je vous garantis un très beau moment et une belle occasion de découvrir les groupes émergents de notre région. Un coup d'œil encore sur la programmation de dimanche, on commencera avec Sport Épique à 11h et on terminera avec Du Poil Sous les Bras à 19h. N'hésitez pas bien sûr à découvrir la programmation complète sur notre site internet l'autreradio.fr. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et soin de ceux qui croisent votre route. Je vous dis à lundi et d'ici là, oui oui oui, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.